Le journal de Nancy Chapuis.
Bonjour, une nouvelle loi est sur la table pour lutter contre les violences domestiques. Le gouvernement jurassien soumet aujourd'hui son message au Parlement. Le texte consolide notamment les moyens à disposition pour protéger les victimes. En cette semaine d'assermentation des nouveaux élus, nous vous proposons de découvrir des particularités des nouveaux ministres. Raphaël Ciocchi est par exemple le premier membre du gouvernement issu d'une famille d'immigrés italiens. Témoignage de son papa dans le journal. Le sport se mobilise aussi contre l'initiative 200 francs, ça suffit. Plusieurs organisations suisses estiment que cette votation soumise au peuple le 8 mars va limiter les heures de diffusion de sport à la SSR, soit 9 000 heures par année à la télévision, à la radio ou en streaming. Le soleil est de sortie aujourd'hui et sur tout le canton. Par contre, demain, les conditions seront partiellement ensoleillées, du brouillard en plaine évidemment, mais aussi des passages nuageux en hauteur et même quelques gouttes en matinée. Le canton du Jura veut se doter d'une loi en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique. Le gouvernement a transmis aujourd'hui un message relatif à un projet de base légale. Cette loi vise à institutionnaliser le dispositif cantonal et à consolider les moyens pour notamment mieux protéger les victimes. Ce texte fait suite à l'adoption d'une motion par le Parlement en 2020. Il répond également à une feuille de route de la Confédération et un plan d'action cantonal de lutte contre les violences. Florian Wolfer, le message rappelle tout d'abord que la situation en matière de violence domestique est particulièrement préoccupante.
295 infractions de violence domestique ont été enregistrées l'année dernière dans le Jura, soit une hausse de 60% par rapport à 2023 et la plus forte augmentation en Suisse. Le projet de loi du gouvernement jurassien regroupe le dispositif existant et vient l'étoffer. Il s'articule autour de 5 axes principaux. Le texte table sur la protection et la prise en charge des victimes en prévoyant notamment la création d'une unité médico-légale et d'une prise en charge spécialisée à l'hôpital du Jura. Il mise aussi sur la prise en charge des personnes auteurs, la protection des enfants, la prévention et la formation ainsi que la récolte de données statistiques. La mise en œuvre de cette loi nécessitera des ressources financières supplémentaires. Le déploiement du dispositif représente des charges annuelles de plus de 700 000 francs. Des coûts uniques de plus de 40 000 francs s'ajouteront également en 2027.
La mise en œuvre de la loi requiert également 0,4 EPT supplémentaires. L'individu considéré comme armé, potentiellement dangereux hier à Reconvilliers, a fini par être interpellé à Tavannes. La police cantonale bernoise indique l'avoir arrêté vers 1h15 cette nuit. L'homme n'a opposé aucune résistance. Une arme de poing aussi a été retrouvée. Cette interpellation a mis fin à une traque de près de 24 heures. Retour sur cette opération avec Anthony Montandon.
C'est dimanche, peu après 14h30, que la police cantonale bernoise publie un premier message sur le réseau social X. Elle y écrit qu'un homme probablement armé et dangereux est ciblé par une opération. Merci à la population de Reconvilliers et à l'entour immédiat de rester jusqu'à nouvel avis à domicile, écrivent les forces de l'ordre. Chef de la police du Jura bernois, Marc Outerman, explique pourquoi l'homme était recherché.
Nous avons été appelés dimanche matin vers 8h30. Par quelqu'un qui a pris contact avec le 117 en disant qu'une personne avait tiré et se promenait avec une arme à feu. Donc on a commencé à faire des recherches pour éviter tout danger supplémentaire et interpeller cette personne.
La police ne donne pas plus de détails à l'heure actuelle sur la querelle qui aurait mené à ces tirs contre la porte d'un appartement du chemin de la Fiole à Tavannes. Marc Outerman explique au final comment l'individu a été retrouvé.
Alors finalement, on peut aussi remercier la population parce qu'en plus de toutes ces recherches qu'on fait, on a fait un appel à témoins. Du coup, des gens au téléphone donnent des informations et c'est un recoupement d'informations qui permet à un moment donné d'aller dans un immeuble où se trouve la personne.
L'enquête se poursuit désormais pour clarifier le déroulement des faits. Il s'agira notamment de déterminer si l'homme en question est bien l'auteur des coups de feu de dimanche. La police scientifique mène également des investigations.
La police a également indiqué hier ne pas avoir connaissance de blessés. Les nouveaux élus cantonaux prêteront serment mercredi soir à Saint-Marcel-à-Delémont. Une cérémonie qui fera de Raphaël Ciocchi le premier ministre jurassien issu d'une famille de communautés immigrées. Il est de la troisième génération de Ciocchi, une famille originaire de Zonnet, petit village du nord de l'Italie. Cyprien Lovi est allé à Kourou rencontrer le papa du nouveau ministre. Dominique Ciocchi nous raconte comment et pourquoi son père est arrivé dans le Jura dans les années 60.
Alors, mon papa est arrivé en Suisse, naturellement, comme tous les Italiens, pour des raisons économiques. Dans la région de Delémont, il y avait déjà une communauté du village de Zonnet. Et puis, dans ce village, il y avait une personne qui a fait en sorte qu'une trentaine de personnes se trouvent dans la région de Delémont. Ce monsieur s'appelait Franco Almici, c'est le grand-papa de la ragoûte. Ce monsieur a fait en sorte que, puisqu'il était dessinateur au Rondet, de faire venir chaque année quelques personnes.
Parce que dans la région de Zonay, le travail manquait tout simplement?
Mais l'Italie, ma mère disait toujours, le travail y est en Italie, mais c'est qu'on te paye 3 mois après, 4 mois après, c'est l'argent qui manquait.
Votre papa, il est venu seul d'abord?
D'abord, mon papa est venu seul. Pendant 3 ans, il est resté seul ici en Suisse. Je me rappelle de situations assez délicates, d'être toute la famille, j'ai 2 sœurs encore, hein, d'être autour d'un feu et puis de pleurer les 5 ensemble parce qu'ils partaient 9 mois. Et puis je me rappelle que beaucoup de mois, on attendait le facteur qui arrive, parce qu'il nous envoyait toujours quelque chose.
Et qu'est-ce qui, petit à petit, a fait que finalement la famille, dans son intégralité, finalement, est venue ici?
Mon papa a travaillé 10 ans à la gravière de Kourou. L'employé de la gravière de Kourou, c'est un certain monsieur, Marc Bessir. Que ce monsieur-là, à un certain moment, a vu que les difficultés de mon papa d'être tout seul ici, a fait en sorte que la famille soit réunie. D'abord ma maman. Après, je suis arrivé moi, et puis mes 2 sœurs après. J'avais l'âge de 10 ans, et puis je suis resté jusqu'à 16 ans, avant qu'on reparte tous. Parce qu'à un certain moment, mon papa a eu le mal du pays, après 10 ans. C'est quelque chose qu'il n'a jamais pu nous l'expliquer, vraiment. Et puis on est reparti, puis moi je suis revenu tout seul après.
Pourquoi?
Le pourquoi? Je suis revenu ici pour visiter quelqu'un qui, pendant mon service militaire, il m'a invité à un mariage. Son mariage. Et puis ma mère, elle m'a dit, avant que tu recommences ton travail au PTT italienne, va rejoindre et puis dire bonjour. Eh bien, ça a été fatal. Je suis rentré, j'ai dit à mon maman, écoute, je fais mon passeport, je viens, en pensant que ça serait été facile de pouvoir trouver un travail après. Je me disais, j'ai fait l'école. Non, je commençais à zéro. Hein.
Quel lien, durant ces 40 ans, vous avez gardé avec votre village d'origine, votre région lombarde?
Alors, moi j'ai eu un grand attachement avec le village de Zonay, hein, où je suis né. Hein. Les enfants partaient toujours 15 jours avant nous. Ils venaient les chercher, ou bien on les conduisait, et puis nous on allait les rejoindre. Donc les enfants ont fait 1 mois là-bas, ils faisaient pratiquement 1 mois. Hein. Ils ont pu comprendre ce que c'était aussi l'Italie, même s'ils étaient très jeunes. Et puis surtout qu'ils ont connu mes parents.
Donc le lien avec l'Italie, l'enfance, il est resté très fort.
Écoutez, je remercie la Suisse de m'avoir donné le droit de vote, de m'avoir permis d'être Suisse, dans un pays vraiment où j'apprécie beaucoup la façon de faire la politique. Mais j'ai un attrait pour l'Italie. Mon grand problème, c'est quand il y a Italie et Suisse que se rencontrent. Là, je préfère éteindre la télé. Et puis si ça finit par un match, je suis heureux.
Et un entretien avec Dominique Tchocchi mené par Cyprien Lovi. Ce soir à 18h, le papa du nouveau ministre socialiste nous livrera l'émotion vécue et partagée jusqu'en Italie au moment de l'élection de Raphaël Tchocchi au gouvernement. Retrouvez l'entretien en intégralité sur rfj.ch. L'assermentation des nouveaux policiers jurassiens s'est déroulée quant à elle jeudi. 9 agents ont ainsi prêté serment après leur première année de formation à Colombier dans le canton de Neuchâtel. 8 autres ont terminé leur seconde année qui se déroule sous forme de stage dans les différents corps de police. Le 8 mars prochain, c'est aussi l'avenir du sport suisse qui est en jeu, pas seulement la question financière de la redevance SSR. Ce matin à Berne, la présidente de Suisse Olympique, l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler et les représentants de fédérations sportives ont lancé leur campagne contre l'initiative 200 francs, ça suffit. Elle veut réduire le montant de la redevance versée à la SSR. Le sport suisse estime avoir tout à perdre avec une télévision publique privée de moyens, Ruth Metzler.
Cette initiative extrême est tellement importante pour le sport que le sport se réunit en disant qu'il faut se battre contre cette initiative parce que c'est un danger pour le sport. La visibilité du sport est tellement importante, pas seulement pour les sportifs, mais sans visibilité, c'est un problème avec les sponsors, c'est un problème avec les compétitions, avec les jeunes, parce que la visibilité à la télé et à la radio, ça aide à augmenter les gens qui font du sport, dans des sports très différents.
Des diffuseurs privés pourraient prendre le relais, ça ne suffit pas?
Non, les privés ne suffisent pas. Les privés, beaucoup plus que la SSR, doivent faire en sorte que leurs transmissions sont économiques. C'est dans ce sens que les privés disent aussi que pas tous pourraient être pris par les privés, ce que la SSR fait aujourd'hui. C'est pour cela que le sport suisse est tellement préoccupé à cause de cette initiative extrême.
Et même l'Association suisse de football s'associe à la croisade du sport suisse contre l'initiative de l'UDC. Pourtant, le football est bien loti à la SSR et les grandes compétitions sont couvertes par des diffuseurs privés. Le nouveau président de l'ASF, Peter Knebel.
Peut-être différemment en comparaison avec les autres sports, ça c'est vrai, mais c'est très important de soutenir les collègues et de montrer cette solidarité nécessaire avec les autres fédérations. En plus, aussi dans le foot, si on parle du foot féminin, le SRG est très important, voir qu'on a aussi une situation avec le foot de base, le coupe. À la fin, c'était la décision de notre comité central de prendre cette position aujourd'hui.
Et des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. La SSR diffuse 9000 heures de sport en direct par an dans les quatre langues nationales. Et une part importante est consacrée aux sports qui ne sont habituellement pas sous les feux des projecteurs médiatiques. La votation a lieu le 8 mars. Et au Maroc, une crue soudaine a causé hier 37 victimes sur la côte atlantique. La province de Safi, environ 300 km au sud de Rabat, a été touchée par de très fortes précipitations orageuses ayant provoqué des écoulements torrentiels exceptionnels en l'espace d'une heure, selon les autorités locales.
RFJ, il est 12h27.
RFJ, sport.
Les cavaliers jurassiens n'ont pas réussi à accrocher le barrage hier lors du Grand Prix du CHI de Genève. Le concours international de saut d'obstacles s'est achevé sur une édition record avec 49 200 spectateurs lors de ce week-end qui marquait le retour de Steve Gerda au plus haut niveau. Après une deuxième opération d'une hernie discale en septembre, le jurassien a remporté la Coupe de Genève samedi, pris la 9e place du top 10 vendredi soir, mais a échoué pour une petite faute lors du Grand Prix. Pour un retour dans le gratin mondial, le bilan de Steve Gerda reste néanmoins très positif aux yeux du directeur sportif du CHI de Genève, Alban Poudret.
Après 3 mois de pause forcée, après cette deuxième opération suite pour hernie discale, c'est sûr que c'était très difficile de se relancer dans le grand bain, dans les épreuves les plus dures du monde, en ayant juste fait un petit concours d'entraînement. Donc, il lui manquait sans doute un ou deux concours pour être totalement performant. Mais il s'est quand même chaque fois retrouvé au barrage, à la lutte avec les meilleurs. Il est dans le top 10 jeudi soir, vendredi soir dans le top 10, même si on espérait évidemment mieux. Mais il a pris des risques. De toute façon, à Genève, il veut que la victoire. Donc, il ne voulait pas assurer une deuxième ou troisième place. C'est clair, on connaît son caractère de gagneur. Mais samedi, il a eu sa victoire, la 16e dans une épreuve majeure à Genève en un peu plus de 20 ans. C'est quelque chose de phénoménal. Le deuxième dans ce classement, depuis aujourd'hui, c'est Ken Farrington qui en a 11. Avant, il était ex-aequo avec 10. Le seul, quelque part, qui galope derrière Steve. Donc, c'est quand même plutôt positif. Ce qui est frustrant, c'est cette faute dans le Grand Prix avec Dynamics qui sautait si bien, une minuscule faute, ça aurait pu passer la même chose. Et c'est vrai que le barrage aurait été encore plus génial si Steve et aussi Scott Brash avaient pu se mêler à la bagarre finale. Il y a toujours des frustrations, mais c'est le sport.
Et les trois autres cavaliers jurassiens en lice durant la semaine, Alain Youffert, Gaëtan Jolia et Anthony Bourcard, ont dû se contenter de top 10. Résultats détaillés à retrouver sur rfj.ch. Le volleyball Franche-Montagne marque le pas en Liga. Troisième défaite d'affilée hier avec ce revers 3-0 à domicile contre Conti Chafouz. La rencontre a manqué de suspense à Seignelay-Légier puisque le VFM s'est incliné sèchement 25-19, 25-20 et 25-18. À une semaine de la trêve, le VFM est donc 7e à 9 points de la 9e place. Malgré la mauvaise série en cours, pas de panique pour l'entraîneur du VFM, Mélanie China, qui fait le bilan de cette première partie de saison.
Si on regarde le premier tour, on a marqué les points contre les équipes qu'on était obligées, donc ceux du bois du classement. La victoire au premier match contre Chafouz était certainement une des surprises. La défaite à Genève, c'était une de celles qu'on n'aurait pas dû perdre, mais à la fin, ça, au niveau des points, ça se remet à zéro. Et puis là, c'est juste qu'on a affronté vraiment un peu le haut de la Ligue juste avant Noël. Donc on savait que c'était une phase très, très, très difficile pour aller chercher des points pour nous. Et on aura un janvier très chargé, bien rempli. Et comme l'année passée, ce sera là où on doit faire la différence pour bien se positionner pour les playoffs. Il y a une certaine fatigue, c'est normal. Pour les filles qui jouent tous les matchs, plus 7 entraînements par semaine, il faut se rendre compte que le corps, il souffre. Et juste avant Noël, c'est vraiment important de gérer. Et puis l'idée maintenant aussi, c'est déjà de travailler sur les points qu'on aura besoin en janvier pour gagner ces matchs importants.
Interview long format de Mélanie Tchina retrouvée sur rfj.ch. Le VFM jouera encore un match avant Noël, le derby dimanche prochain face à Neuchâtel. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Bel après-midi. RFJ Sport.